Aristote, Constitution d'Athènes, traduction par M. Haussoulier, directeur adjoint de l'École pratique des hautes études. Deuxième partie. Suite. Chapitre 61. Magistrature conférée à l'élection. Fonction militaire. Les 10 stratèges. Répartition des fonctions entre les stratèges. De la surveillance des stratèges par le peuple. De l'autorité des stratèges. Des taxiarques. Des hipparques. Des philarques. De l'hipparque de Lemnos. Des intendants de la Paralos et de l'Ambonias. Toutes les fonctions militaires sont conférées à l'élection. Paragraphe 1. Ce sont d'abord les 10 stratèges que l'on élisait autrefois un par tribu et que l'on prend aujourd'hui sans distinction parmi tous les Athéniens. Paragraphe 2. Le peuple, par un vote à main levée, distribue leurs fonctions aux membres du collège. L'un est désigné pour commander les hoplites quand il quitte le pays pour se mettre en campagne. L'autre pour garder le pays. Il ne prend part à la guerre que si elle a lieu dans le pays. Deux pour le Pirée, dont l'un pour Munichie et l'autre pour l'Actée. Ils veillent tous les deux à la garde de l'Achélée et du Pirée. Un autre est désigné pour les Simories. Il inscrit sur le rôle l'étriérarque, procède, s'il y a lieu, aux échanges de fortune et introduit devant le tribunal toutes les contestations entre compétiteurs. Les autres stratèges sont détachés au dehors, suivant les besoins du moment. Paragraphe 3. À chaque prytanie, le peuple répond par un vote à main levée à la question suivante. Les stratèges remplissent-ils dignement leurs fonctions? Si quelqu'un d'entre eux est exclu par le peuple, il est jugé par le tribunal qui, en cas de condamnation, fixe la peine ou le montant de l'amende. S'il est acquitté, le stratège reprend ses fonctions. Paragraphe 4. Quand ils exercent le commandement, les stratèges ont le droit d'infliger l'emprisonnement, l'expulsion et l'amende à quiconque manque à la discipline. Généralement, ils n'infligent pas d'amende. Paragraphe 5. Sont aussi élus à main levée les 10 taxiarques, un par tribu, ils commandent aux hommes de leur tribu et nomment les capitaines. Paragraphe 6. Sont également élus les hipparques, au nombre de 2, qui sont pris parmi tous les Athéniens. Ils ont le commandement des cavaliers et commandent chacun à 5 tribus. Les hipparques ont sur les cavaliers les mêmes droits que les stratèges sur les hoplites et sont aussi soumis à un vote à main levée. Paragraphe 7. Sont encore élus les philarques, un par tribu. Ils commandent aux cavaliers de leur tribu comme les taxiarques commandent aux hoplites. Paragraphe 8. Est aussi élu l'hipparque de Lemnos. Il a le commandement des cavaliers qui tiennent garnison dans Lemnos. Paragraphe 9. Sont également désignés à l'élection les intendants de la galère parallienne et de la galère d'Amon. Chapitre 62. Magistrature, fin. Du mode de tirage au sort, des salaires des fonctionnaires, des fonctions qui pouvaient être remplies plusieurs fois. Paragraphe 1. Pour les fonctions désignées par le sort, on distinguait anciennement deux modes de tirage. Les unes étaient, avec les charges des 9 archontes, tirés dans la tribu tout entière. Pour les autres, on faisait une part à chacun des dèmes de la tribu et le tirage au sort avait lieu dans le Théséion. Mais comme l'Édème vendait ses fonctions, on les tire au sort maintenant, elles sont aussi dans la tribu tout entière. Il n'y a d'exception que pour les conseillers et les gardes, dont la désignation a été laissée aux démotes. Paragraphe 2. Les salaires sont les suivants. Tout citoyen reçoit, pour une séance de l'Assemblée, 3 oboles. Pour une séance ordinaire de l'Assemblée, 1 drachme. Pour une grande séance, 9 oboles. Chaque juge reçoit 3 oboles par audience. Chaque membre du conseil, 5 oboles, et les prytanes, 1 obole en plus pour leurs frais de nourriture. Les 9 archontes reçoivent chacun 4 oboles pour leurs frais de nourriture. L'entretien du héros et du joueur de flûte qui les assiste est à leur charge. L'archonte de Salamine reçoit 1 drachme par jour. Les athlothètes prennent leur repas au prytané, dans le mois d'Hécatombéon, où se célèbrent les Panathénées à partir du 4. Les amphictyons, envoyés à Délos, reçoivent 1 drachme par jour et ils la touchent à Délos. Tous les fonctionnaires envoyés à Samos, Skyros, Lemnos ou Imbros reçoivent leurs frais de nourriture en argent. Paragraphe 3. Les fonctions militaires sont les seules qui puissent être remplies plusieurs fois. Pour les autres, il n'y a d'exception que pour le conseil où l'on peut siéger 2 fois. Chapitre 63. Les tribunaux. De la désignation des juges, du mobilier nécessaire à la répartition des juges dans les tribunaux. Des conditions à remplir pour être juge. Du moyen de reconnaître l'identité des juges, de l'utilité des tablettes des juges. Paragraphe 1. Les juges des tribunaux sont tirés au sort par chacun des 9 archontes dans sa tribu et par le greffier des desmothètes dans la 10e. Il y a 10 entrées au tribunaux, 1 pour chaque tribu. 20 locaux pour le tirage au sort, 2 pour chaque tribu. 100 boîtes, 10 par tribu. 10 autres boîtes où l'on met les tablettes de ceux que le sort a désignés pour juges. À chaque entrée sont 2 hydries et autant de bâtons qu'il y a de juges appelés à siéger. Dans l'une des hydries, on met autant de glands qu'il y a de bâtons et sur ces glands sont inscrits des chiffres à partir du chiffre 11. Il y a autant de chiffres qu'il y a de tribunaux à former. Paragraphe 2. Peut remplir les fonctions de juge tout citoyen âgé de plus de 40 ans, à la condition qu'il ne soit pas débiteur du trésor public ou qu'il n'ait pas été frappé d'atimie. Celui qui siège sans en avoir le droit est poursuivi par voie de dénonciation devant le tribunal en cas de condamnation. Les juges ont à fixer en outre la peine ou l'amende qui sont laissées à leur appréciation. S'il est condamné à une amende, le débiteur du trésor est tenu en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette antérieure pour laquelle il a été dénoncé et l'amende que le tribunal lui a infligée en outre. Paragraphe 3. Chaque juge est porteur d'une tablette de buis où sont inscrits son nom, celui de son père, son démotique et un chiffre, de 1 à 10. Les juges, dans chaque tribu, forment en effet 10 sections et le nombre des juges est à peu près le même dans chaque section. Quand le thesmothète a tiré au sort les chiffres qui doivent être attribués aux tribunaux, l'appariteur s'en va placer au-dessus de chaque tribunal, le chiffre qui lui est assigné par le sort. Avec le chapitre 63, finit la colonne 30 du papyrus. La colonne n'est pas entièrement remplie. au-dessous des mots qui sont au commencement de la ligne 53, est un espace blanc de 6 lignes. Sous ces mêmes mots, le copiste a tracé un ornement très simple. Sa tâche était finie, et c'est un autre, la troisième main, qui a copié la fin de l'ouvrage. Toute cette partie du papyrus est malheureusement incomplète et dans un très mauvais état de conservation. L'éditeur anglais n'a pas divisé ces fragments en chapitres et nous suivrons son exemple. Il nous est en effet impossible de savoir quelle est l'étendue de la lacune entre la colonne 30 et la place 19 du fac-similé. En outre, plus d'un passage est trop mutilé pour que les plus audacieux même en tente la restitution. Nous chercherons surtout, dans les pages qui suivent, à guider ceux de nos lecteurs qui tenteraient l'étude des places 19, 20, 21 du fac-similé. Tous ces fragments qui se répartissent dans 7 colonnes se rapportent à l'organisation des tribunaux. Colonnes 31 à 37. Colonne 31. Organisation des tribunaux. Suite. Formation de la liste de services. Combinaison du tirage au sort des tablettes et du tirage au sort des cubes. Répartition des juges dans les tribunaux appelés à siéger. Paragraphe 1. On distribue les boîtes à chacune des tribus. Sur ces boîtes, sont inscrits des chiffres de 1 à 10. Quand on a mis les tablettes des juges dans les boîtes, qui portent le même chiffre, l'appariteur secoue les boîtes et le tesmothète tire une tablette de chaque boîte. Le premier juge ainsi tombé, au sort, est appelé l'afficheur, et il affiche les tablettes, à mesure qu'elles sont tirées des boîtes, sur la règle qui porte le même chiffre que la boîte. L'afficheur est tiré au sort pour que ses fonctions ne soient pas toujours remplies par la même personne et pour empêcher ainsi toute fraude. Quand l'archonte de la tribu a mis les cubes dans les boîtes, il convoque les juges dans le local du tirage au sort. Les cubes sont des pierres noires et blanches. On met autant de cubes blancs qu'il faut de juges, à raison d'un cube par 5 tablettes. On procède de même pour les cubes noirs. Paragraphe 2. Quand l'archonte a tiré les cubes, l'appariteur appelle les juges que le sort a désignés. Il est assisté de l'afficheur. Quand le juge a été appelé et que son identité a été constatée, il tire un gland d'une des hydries, puis le montre à l'archonte qui préside les opérations. Quand l'archonte a vu le gland, il jette la tablette du juge dans une autre boîte qui porte le même chiffre que le gland, afin que le juge se rende au tribunal qu'il a tiré au sort et non pas à celui qu'il voudrait, et afin que l'on ne puisse former un tribunal avec les juges que l'on voudrait. Auprès de l'archonte ont été placées autant de boîtes qu'il y a de tribunaux à former, et chacune de ces boîtes porte le numéro d'un tribunal. Colonne 32. Organisation des tribunaux suite. Comment le juge sait dans quel tribunal il doit siéger? Les bâtons, le jeton de présence. Paragraphe 1. L'appariteur remet au juge un bâton peint de la même couleur que le tribunal qui porte le numéro de son gland, afin que le juge ne puisse entrer dans un autre tribunal que le sien. S'il entrait dans un autre tribunal, il serait trahi par la couleur de son bâton. En effet, le linteau de la porte d'entrée de chacun des tribunaux est peint d'une couleur différente. Et quand le juge a reçu son bâton, il se rend au tribunal qui porte et la même couleur et le même numéro que le gland qu'il a tiré. Paragraphe 2. Une fois entré, le juge reçoit un jeton frappé par l'État et que lui remet un fonctionnaire désigné par le sort à cet effet. le reste de la colonne est trop mutilé pour qu'on en puisse tirer rien de certain. Colonne 33, 34, 35. Les colonnes sont très mutilées. Si mutilée que soit cette colonne 35, on a pu, en les rapprochant d'une citation d'Harpocration, restituer les lignes 27-35. Description de la procédure suite. Les bulletins de vote. Les bulletins de vote sont en bronze avec une tige au milieu. Dans la moitié, cette tige est percée, dans l'autre, elle est pleine. Quand les plaidoiries sont terminées, les distributeurs désignés par le sort remettent à chacun des juges deux bulletins, l'un à tige percée, l'autre à tige pleine. Ils les remettent ostensiblement sous les yeux des parties, afin que les juges ne reçoivent ni deux bulletins percés, ni deux bulletins pleins. Colonne 36 et 37, très mutilée. La colonne 37 compte 8 lignes, écrites avec beaucoup de soin. Un assez grand ornement marque la fin de l'ouvrage. Description de la procédure, fin. Les amphores où l'on recueille les votes. Le vote, le compte des voix et la proclamation du vote. Vote sur l'évaluation de la peine, le paiement du salaire. Paragraphe 1. Deux amphores sont placées dans le tribunal, l'une en bronze, l'autre en bois. Elles sont séparées l'une de l'autre pour que l'on ne se trompe pas en déposant son vote. Dans ces amphores sont recueillis les votes des juges. Dans l'amphore de bronze, les bulletins qui expriment la sentence, dans l'amphore de bois, ceux qu'on annule. L'amphore de bronze est fermée par un couvercle percé d'une ouverture qui ne laisse passer qu'un bulletin à la fois. Paragraphe 2. Au moment où il va être procédé au vote, le héros fait une première proclamation et demande si les parties se proposent d'attaquer les témoignages. Il faut en effet qu'elles attaquent les témoignages avant le vote des juges. Le héros fait ensuite la proclamation suivante. Le bulletin percé est pour la partie qui a plaidé la première. Le bulletin creux pour la partie qui a plaidé la dernière. Suivent 16 lignes très mutilées. On voit pourtant qu'il y était parlé de la vérification des bulletins et du dépouillement du scrutin. On commençait par vider les deux amphores dont on avait aussitôt besoin pour le dépouillement. Les bulletins, tirés de l'amphore de bois, étaient sans doute mis de côté puisqu'ils ne servaient à rien. Les bulletins tirés de l'amphore de bronze étaient au contraire soigneusement triés. Paragraphe 3. On sépare les bulletins percés des bulletins pleins. Les uns, les bulletins pour l'accusateur ou le demandeur, sont jetés dans l'amphore de bronze. Les autres, les bulletins contre, sont jetés dans l'amphore de bois. Les appariteurs chargés de porter les votes remettent l'amphore de bronze. On voit dans la suite que les bulletins sont comptés, que le vote est proclamé. Paragraphe 3, suite. Le héros proclame alors le nombre des bulletins. Les bulletins percés sont attribués aux demandeurs, les pleins aux défendeurs. Celle des deux parties qui a obtenu le plus grand nombre de bulletins gagne son procès. À égalité de bulletins, le défendeur est renvoyé des fins de la demande. Lorsqu'il y a lieu, il est procédé à un second vote sur l'évaluation de la peine à infliger ou de la somme à payer. Paragraphe 4. Les juges votent de la même manière en rendant leurs jetons et reprenant leurs bâtons. Un demi-conge d'eau est accordé à chacune des parties pour s'expliquer sur l'évaluation. Paragraphe 5. Quand les juges ont rempli toutes leurs fonctions conformément aux lois, ils reçoivent leur salaire dans la section dans laquelle le sort les a répartis. Fin du texte.